Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Aujourd'hui, une émission intitulée « La Catalogne ». La Catalogne toujours dissidente et jusqu'où ? Point d'interrogation. Une émission diffusée une première fois le 5 octobre 2013.
Travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. L'ambition qu'a la Catalogne de renforcer son autonomie par rapport à l'Espagne castillane et pour un bon nombre de ses habitants d'aller jusqu'à l'indépendance vient de s'affirmer de façon spectaculaire. Le 11 septembre dernier, la Diada, journée historique de la province, a été marquée par une manifestation spectaculaire à laquelle la presse française n'a peut-être pas prêté toute l'attention qu'elle méritait du point de vue de l'Espagne comme du point de vue de l'Europe. Depuis le col du Pertus, au nord, à la frontière française, jusqu'à Alcanar, au sud, une longue ligne de citoyens se donnant la main s'est étirée sur 400 kilomètres. Le cri d'Independencia s'est élevé de toutes les gorges à 17h14, en évocation du jour de 1714, où Barcelone se vit contrainte de céder face aux troupes des Bourbons lors de la guerre de succession d'Espagne. Avec Benoît Pellistrandi, ancien directeur des études de la Casa Velázquez, la grande école française de Madrid, membre correspondant de l'Académie royale d'histoire espagnole et professeur en Cagnes au lycée Condorcet, nous allons nous interroger ce matin sur les ressorts historiques, lointains et récents, de la dissidence catalane. Sur son énergie et peut-être sur ses limites, jadis et naguère, en tâchant d'éclairer les incertitudes du futur. Avec la conviction d'entrée de jeu que cette puissante force centrifuge dans la péninsule ibérique se nourrit, comme il advient toujours, de la combinaison de facteurs culturels et économiques, tout autant que directement politiques. Et que la crise violente que connaît l'Espagne ces temps-ci ne peut qu'exacerber la tension.
Catalonia contat gran, qui t'a vist tan rica y plena, para el rey nostre señor, nos han declarat la guerra. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals, on és vostre capità, on és vostre bandera, verem treure el bon Jesús, tot cobert amb un vel negre. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals, aquí és nostre capità, aquí és nostre bandera, a les armes catalans que no s'han declarat la guerra. Bon cop de force, defensors de la terre. Bon cop de force.
Benoît Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre l'hymne catalan, qui est évidemment très présent en Catalogne, au cœur de toutes les revendications, de toutes les espérances, de tous les appels à la dissidence et en tout cas à l'originalité. Il s'agit de Els Segadors, c'est-à-dire les faucheurs ou les moissonneurs, qui est ici interprété par Francisco Montaner le 16 décembre 1975 dans une émission de France Culture, Libre Parcours, une émission d'Ève Grilliquez. Cette date est importante et significative puisque peu de temps avant, Franco est mort, le 20 novembre 1975. Donc cet hymne repris, de la sorte, signifie beaucoup.
Oui, parce que c'est le symbole de cette Catalogne. Il fait allusion, en réalité, à la grande révolte des Catalans en 1640 contre le mauvais gouvernement, c'est-à-dire contre un projet du premier ministre de Philippe IV, qui est un roi Habsbourg, et qui veut, d'une certaine façon, nationaliser l'Espagne, c'est-à-dire demander à tous les royaumes un même effort fiscal et militaire. C'est le projet connu sous le nom de « Union des armes ».
Donc on a déjà l'unité, l'aspect financier, comme toujours, payer ou pas payer des impôts.
Absolument.
Et puis et l'aspect culturel.
On a tous ces éléments. Et effectivement, les Catalans se rebellent, et ils vont appeler Louis XIII à la rescousse, qui sera, de façon éphémère, comte de Barcelone.
Ah oui, on ne sait plus, ça a raison de plus de s'intéresser à ce qui s'est passé en septembre dernier.
Mais il n'y a aucun candidat pour devenir comte de Barcelone aujourd'hui en France. On comprend du coup pourquoi le gouvernement français, par exemple, est extrêmement prudent par rapport à ce que la Catalogne, dans ses revendications, pourrait demander par rapport à l'indépendance.
Vous pensez que c'est parce que la France craint une contagion régionaliste ?
Sans doute. Sans doute, la France ne veut pas revoir effectivement un problème qui serait majeur, à savoir l'indépendance de la Catalogne avec tous les problèmes que cela poserait par rapport à l'Union européenne en termes juridiques. Et ça serait effectivement à ce moment-là aux portes même, aux frontières de la France. Et en plus, normalement, dans cette Europe occidentale où les frontières sont relativement stables. Nous ne sommes pas comme en Europe orientale.
Peut-être que du côté de la Belgique, il peut y avoir aussi quelque chose comme une tension. Et aussi en Écosse, il va y avoir en 2014 un référendum écossais.
Oui, le Pays Basque, l'Écosse, la Flandre, la Catalogne, quatre régions qui aspirent à devenir des nations, ou en tout cas à se voir reconnaître comme nations. Le passage à l'indépendance suppose effectivement un changement d'échelle tout à fait considérable. Aujourd'hui, les Catalans estiment être le mouvement nationaliste le plus puissant en Europe. Et vous avez raison de remarquer que nous n'avons pas suffisamment porté attention à ce phénomène.
Nous les Français.
Nous les Français et le reste de l'Europe aussi a été très très prudent par rapport à cela.
Pourquoi alors ? Manque d'intérêt ou inquiétude sur d'éventuelles forces centrifuges qui finiraient par contribuer à démantibuler l'équilibre actuel ?
Peut-être les deux et peut-être aussi le fait que d'une certaine façon nos grands États-nations ont évacué le nationalisme et que nous sommes très étonnés de le voir à nouveau vivant, fort, puissant dans des entités plus petites. Et du coup, on raisonne toujours en termes d'éclatement. Et c'est un peu effectivement la crainte. C'est-à-dire, on imagine une Espagne qui éclaterait, on imagine une Belgique qui disparaîtrait. On imagine effectivement, avec l'indépendance possible du Pays Basque, les répercussions que ça pourrait avoir sur le Pays Basque français.
Donc nous allons avoir à comprendre ce qu'est cette spécificité catalane et d'où elle surgit sur la longue durée. Et pourquoi finalement il n'y a pas forcément assimilation entre l'idée du fait national et l'idée de l'indépendance absolue.
Les historiens catalans, nationalistes ou non, estiment que la Catalogne existe au Xe siècle. En réalité, c'est une terre de frontières. Elle est carolingienne à partir de 801. Et puis, l'invasion musulmane de l'Espagne en fait effectivement un espace de conflit. Et progressivement, les comtes de Barcelone vont s'autonomiser. Et à partir du Xe et du XIe siècle, alors qu'ils ont demandé de l'aide au roi franc pour notamment lutter contre le grand chef musulman Almansour qui est venu piller la ville de Barcelone, cette aide ne vient pas, et donc effectivement, ils vont se penser comme une entité absolument autonome.
C'est pour ça que Jordi Pujol, homme politique catalan majeur, le roi Pujol qui a régné sur le, peut-être dois-je dire, qui a présidé la Catalogne pendant presque un quart de siècle, entre 1980 et 2003, aimait à répéter que la Catalogne est un pays qui a plus de 1000 ans d'histoire.
Oui. Et le catalan apparaît aussi entre le Xe et le XIe siècle.
La langue, vous voulez dire.
La langue catalane, effectivement, c'est une dilution progressive du latin. Et cette dilution n'aboutit pas au castillan. Les premiers mots de castillan datent de 978. Les premiers mots de catalan sont exactement contemporains. Et en plus, il se trouve que, étant une terre de contact entre islam et chrétienté, la Catalogne va apporter des choses décisives à l'histoire de la science européenne. Gerbert d'Aurillac, qui deviendra pape sous le nom de Sylvestre II en l'an 1000, a étudié en Catalogne et c'est là qu'il a découvert le chiffre zéro des mathématiques arabes et qu'il l'a ensuite importé dans la science occidentale.
Saluons et avançons un peu dans le temps avec l'émergence d'institutions propres, avec la généralitat qui va tant compter sur la longue durée, c'est le XIIIe siècle.
Voilà, c'est le XIIIe siècle. Et ce qui est très important, c'est que ces représentations des villes catalanes vont faire que le comte de Barcelone, qui est souverain, alors il ne porte pas le titre de roi, il est comte de Barcelone, alors qu'il a effectivement toute l'autorité pleine d'un souverain. Ce comte de Barcelone doit négocier avec les villes et avec les représentants des bourgeoisies de ces villes. Si bien que les Catalans sont très fiers de leurs institutions très anciennes. Pau Casals, en 1971, à l'ONU, avait dit « Nous sommes le plus vieux parlement du monde ».
Oui, Casals, c'est un des grands hommes, le musicien.
Violoncelliste
très très fameux et qui est une des gloires de la
Catalogne. Et qui du coup dit « Nous sommes dans une tradition démocratique depuis plus longtemps que l'Angleterre ». Et effectivement, ces comtes de Barcelone doivent faire face à cette généralitat, et notamment à la fin du XIIIe siècle, à l'apparition d'une députation permanente de ces institutions, c'est-à-dire pas simplement de temps en temps des sessions, mais il y a en permanence des représentants de la bourgeoisie urbaine qui peuvent donc contester les décisions, et notamment les décisions fiscales.
On comprend que la Catalogne d'aujourd'hui se réfère à ces périodes avec fierté pour y chercher peut-être un ressort des aspirations actuelles à plus d'indépendance ou plus d'autonomie. En tout cas, sur le mot même de Catalogne, il est assez intéressant de s'interroger. Je vais vous faire entendre un extrait d'une causerie de Pierre Villard dans l'heure de la culture française en décembre 1958. Pierre Villard a été un historien considérable de la Catalogne. Il a publié une thèse reconnu, notamment en Espagne, sur la Catalogne à l'époque moderne. Et il nous dit ici comment le terme même est apparu.
Le nom de Catalogne nous est familier. Nous n'avons pas le sentiment qu'il couvre un mystère. Pourtant, c'est un nom historique récent. On n'en trouve aucune trace jusqu'au XIIe siècle. Aucune des étymologies du mot longtemps proposée ne satisfait à la fois les historiens et les philologues. La dernière explication semble la mieux assurée. Nous allons voir qu'elle est assez surprenante. Tout au début du XIIe siècle, les comtes de Barcelone montèrent, de concert avec la République de Pise, une attaque contre les musulmans de Majorque. Des écrivains italiens furent chargés d'en raconter les exploits. En bons chroniqueurs officiels, ils se conformèrent au pédantisme de leur époque. Ils voulurent trouver un nom antique à leurs alliés. Ils cherchèrent dans Ptolémée, naturellement. Mais ils tombèrent sur un mauvais manuscrit. Pour la peuplade ibérique Laquetanoï, le scribe avait transcrit Catelanoï. 40 ans plus tard, tout le monde parlait de catalan et de Catalogne.
Il faut rappeler, Benoît Pellistrandi, que Ptolémée, c'est le célèbre géographe de l'Antiquité, du 1er siècle après Jésus-Christ.
Pierre Villard, qui est un personnage essentiel pour la conscience moderne de la Catalogne.
Je l'ai connu personnellement comme professeur à Paris dans les années 60, grand spécialiste de l'hispanité en Amérique latine et notamment de l'Espagne, particulièrement de la
Catalogne. Sa thèse porte sur effectivement la Catalogne à l'époque moderne. Il était au départ géographe. Il est arrivé en Catalogne en 1923. Il était tout jeune Et il a donc assisté aux mutations, aux transformations de la société catalane, notamment au moment de la dictature de Primo de Rivera, qui est un moment de répression du catalanisme.
Dictature qui remonte à
1923-1930. Et ensuite, Pierre Vilar n'a cessé de travailler sur ces questions-là. Et sa thèse, qui, je crois, est soutenue en 1962...
Oui, tardivement. J'ai assisté à cette soutenance dans la salle Louis Liard, à la Sorbonne. Il était cœur de son âge mûr.
Pierre Vilar est mort en 2003, pour nos auditeurs, à l'âge de 96 ans. Donc, il traverse tout le XXe siècle.
Et très connu en Espagne.
Considérablement. Sa mort a suscité une véritable émotion. Il a fait la une des journaux. Et Jordi Pujol a reconnu tout ce qu'il devait à Pierre Vilar. C'est d'ailleurs intéressant parce que Pierre Vilar n'est pas un nationaliste catalan. Pierre Vilar explique la place nouvelle que la Catalogne prend au XVIIIe siècle dans ses dynamiques économiques et qui conduiront à une industrialisation précoce et qui distinguera la Catalogne du reste de la péninsule ibérique. Mais Pierre Vilar n'épouse pas un combat de nature politique. D'un autre côté, étant d'inspiration marxiste, le nationalisme local ne l'intéresse pas sous cette forme-là.
Les forces économiques l'intéressent plus qu'à l'époque, je me le rappelle, que les forces culturelles. Mais avançons, si vous voulez bien, dans le temps. Il faut en venir à cette date du 11 septembre 1714, puisque je le rappelais, c'est à 17h14 que la longue chaîne de septembre dernier s'est arrêtée nette, s'est figée et a crié « Vive l'indépendance !»
1714, c'est la date de fondation de cette conscience nationale catalane blessée. Nous sommes dans la guerre de succession d'Espagne. Charles II, dernier roi Habsbourg, est mort sans descendance. Et Louis XIV, qui avait épousé une fille de Philippe IV, tout en renonçant à la possibilité de l'héritage espagnol, eh bien, avait travaillé Charles II. Le testament de Charles II désigne le duc d'Anjou, futur Philippe V, donc le petit-fils de Louis XIV, comme roi d'Espagne. Louis XIV accepte le testament, mais ça provoque une guerre européenne, puisque cela donnerait une hégémonie française inacceptable pour les autres puissances, Angleterre, Pays-Bas et Autriche.
Alors comment est-ce que ça conduit à la fin des libertés catalanes ?
Parce que les Français et les Bourbons sont décentralisateurs. Et du coup, effectivement, au fur et à mesure que Philippe V gagne les conquêtes, il entend procéder à une modernisation du royaume. Et dès 1707, il publie un décret très important qu'on appelle le décret de Nueva Planta et qui abolit les royaumes constituants la couronne espagnole.
Ils sont décentralisateurs, en deux mots.
En deux mots. Et en 1714, donc la Catalogne tombe, la Catalogne avait pris fait et cause pour les Habsbourg. C'est une ironie de l'histoire, car souvenons-nous, en 1640, ils étaient allés appeler le roi Bourbon contre les Habsbourg. Mais là, ils ont senti effectivement les risques sur leur liberté catalane. Et en 1716, le décret de Nueva Planta est implanté en Catalogne et Barcelone perd ses libertés.
À la suite de cette défaite de septembre du 1714.
Et alors la date du 11 septembre qui a été choisie par les nationalistes catalans, c'est une invention de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et parce qu'effectivement, il y a tout un travail d'exhumation du passé national. Et du coup, on décide de faire de ce 11 septembre une commémoration de la nation blessée. Ce qui devrait nous conduire à réfléchir justement sur ce nationalisme catalan qui à la fois est un nationalisme de projet, mais qui recense d'une certaine façon l'idée que la Catalogne aurait dû être une nation et qu'elle n'a jamais réussi à l'être. Elle aurait dû l'être au XIe et XIIe siècle. Elle aurait pu être le principe d'organisation de la Méditerranée occidentale au XIVe siècle. Et elle a toujours échoué.
Parce qu'au fond, il est assez rare qu'on choisisse une fête nationale à partir de la date d'un échec, d'une défaite, même d'une déconfiture.
Et c'est même extraordinairement curieux, car c'est vraiment, et ça donne sa teinte à ce nationalisme qui est à la fois très vindicatif.
Et très chagrin.
Et très chagrin. Et alors le 11 septembre va au départ être le fait de militants, naturellement interdit sous la dictature de Primo de Rivera dont on a parlé entre 1923 et 1930, et interdit sous Franco entre 1939 et 1975. Mais le nationalisme a récupéré cette date dès 1976 et chaque 11 septembre est une étape supplémentaire dans la revendication d'indépendance. Donc le dernier moment, ça a été celui-là de 2013. Nul doute que le 11 septembre 2014 va donner lieu à une mise en scène encore plus spectaculaire.
Donc il y a sans cesse des rebonds de cet anniversaire du 11 septembre dans notre contemporain.
Oui. En 2010, par exemple, lorsque le tribunal constitutionnel espagnol n'a pas validé le préambule du nouveau statut d'autonomie parce qu'il parlait de nation catalane et que c'est incompatible avec la constitution espagnole, eh bien, il y a une grande manifestation dès le mois de juillet dans les rues de Barcelone. Et le 11 septembre 2010, il y a eu plus d'un million de personnes dans les rues. Le nationalisme catalan mobilise beaucoup. Et Barcelone est l'épicentre de ces mobilisations. Donc les chiffres qu'annonce régulièrement la Généralité, entre 1 million et 1,5 million de personnes, sont tout à fait crédibles.
Sur combien d'habitants en Catalogne ?
Aujourd'hui, 7,5 millions. Sur ces 7,5 millions, il y a 6,5 millions qui sont de nationalité espagnole et 1 million qui ressortissent d'autres nationalités, 300 000 Européens et 700 000 d'immigration, soit sud-américaine, soit africaine.
Le XVIIIe siècle, Benoît Pellistrandi, après cet échec militaire et politique du 11 septembre, c'est un siècle de revanche dans l'ordre économique. Une prospérité neuve de la Catalogne qui va dessiner une spécificité qui dure jusqu'à nos jours. Je suis frappé de ce qu'en dit Voltaire dans le siècle de Louis XIV. La Catalogne est un des pays les plus fertiles de la terre et des plus heureusement situés. Autant arrosés de belles rivières, de ruisseaux et de fontaines que la vieille et la nouvelle Castille en sont dénuées, elle produit tout ce qui est nécessaire aux besoins de l'homme et tout ce qui peut flatter ses désirs en arbres, en blé, en fruits, en légumes de toute espèce. Barcelone, ajoute Voltaire, est un des beaux ports de l'Europe et le pays fournit tout pour la construction des navires. La Catalogne, enfin, peut se passer de l'univers entier et ses voisins ne peuvent se passer d'elle. Fin de citation.
Voltaire a raison. Voltaire a raison. C'est le grand renversement du XVIIIe siècle où le centre castillan s'appauvrit, épuisé par l'effort militaire et aussi par une économie qui était une économie de la rente. Et les périphéries espagnoles s'épanouissent, au premier rang desquelles, naturellement, la Catalogne, mais aussi le Pays basque. C'est intéressant de rapprocher ces deux exemples, puisqu'effectivement, ces régions vont ensuite, au XIXe siècle, être les premières à s'industrialiser. L'industrie textile catalane sera très forte. On y trouve les premières machines à vapeur. La première ligne de chemin de fer est en Catalogne, même si certains le contestent, car il y a une première ligne qui est construite sur l'île de Cuba. Et Cuba, à l'époque, appartient à la couronne espagnole. Vous comprenez que ce sont des querelles de chronologie.
Jusqu'en 1898, jusqu'à ce que
voilà,
Cuba soit perdu par l'Espagne.
Cuba est perdu, mais la première ligne, en fait, elle est catalane, 1840, entre Barcelone et Mataró.
Fierté.
Fierté, car Barcelone, ensuite, va devenir la figure de la modernité. Dans les années 1870-1890, elle sera remaniée par un grand urbaniste, Ildefonso Cerdà, qui fait que, quand aujourd'hui on va à Barcelone, on voit clairement quel a été cet urbanisme magnifique qui fait qu'ils n'ont pas de problème de circulation.
Alors parallèlement, au XIXe siècle, on constate un renouveau culturel. Il y a toujours cette dialectique, l'économie et la culture cheminent et progressent de conserve. Il y a cette renaissance catalane qui est parallèle d'ailleurs à des renaissances culturelles qu'on constate dans plusieurs pays d'Europe centrale, qui affichent de la sorte leur détermination de faire émerger leur autodétermination. Dans le cas de la Catalogne, c'est particulièrement clair et ça se dessine autour de la langue comme dans d'autres nations européennes. Écoutez cet extrait d'un entretien avec le poète catalan José Palau i Fabre, j'espère que je prononce bien.
Oui.
À propos de la Renaissance catalane, dans l'heure de culture française du 22 octobre 1968, il va lire le poème « Ode à la patrie » de Carles Aribau.
Les Catalans sont unanimes aujourd'hui à considérer le poème « À la patrie » ou « L'ode à la patrie » écrit en 1833 comme le premier cri de ce réveil collectif. Il est à souligner cependant que celui-ci n'a pas été considéré tout de suite comme tel, mais plutôt comme un adieu, même comme un adieu définitif au pays et à sa culture. « Adeus-siau, turons, per sempre adeus-siau. O serres desiguals, callin la patria mia.
Adieu, mes collines, adieu, à jamais. Ô chaînes inégales que là-bas, dans ma patrie, de loin je distinguais des nuages et du ciel par son calme éternel, par sa couleur plus bleue.
Le sentiment de l'homme qui s'exprime ainsi, il est de toute évidence un sentiment romantique. Parvenu à l'exaltation, ce sentiment lui fera s'écrier « Muira, muira l'ingrat, que en sonant sus llavis, per estranya regió l'accent natiu no plora. »
À mort, l'ingrat qui, en prononçant des mots de sa langue natale dans une étrange contrée, ne pleure pas, qui, en évoquant les siens, ne se consume pas de regrets, qui ne prend du mur sacré la lyre de ses ancêtres.
Aussi, la première grammaire catalane, celle de Bayotte, de 1815, fut écrite dans l'intention de recueillir le trésor de la langue catalane avant sa disparition, avant qu'il fût trop tard pour le faire.
L'idée de rattraper par les cheveux le catalan au moment où il risque de disparaître, rôle des grammairiens, des philologues, là encore, comme du côté des jeunes nationalités de l'Europe centrale ou d'ailleurs, j'ai voulu vous faire entendre un peu de catalan pour mesurer à quel point il sonne différent du castillan, n'est-ce pas, Benoît Pellistrandi?
Autant on peut lire le catalan et essayer de le comprendre avec le français et le castillan, autant si on ne l'a pas appris, c'est très difficile de le comprendre à l'oral.
Alors le rôle de la langue essentielle, où en est-on aujourd'hui par rapport à l'époque?
C'est la ligne directrice du nationalisme catalan. Comme vous l'avez fort bien dit, on a sauvé par les cheveux ce catalan qui était rural. Et l'élite intellectuelle et bourgeoise s'en est emparée et tout au long du 19e fait renaître, c'est le terme que le mouvement culturel va utiliser, la Renaissance, la Renaissance, va faire renaître le catalan et notamment par l'écrit. En 1859, les premiers Jeux floraux sont célébrés à Barcelone, c'est un concours de poésie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir convergence de plusieurs courants politiques, à la fois les courants libéraux, mais aussi le catholicisme. Et quelqu'un comme Menéndez Pelayo, qui est un grand érudit, qui sera directeur de la Bibliothèque nationale à Madrid et qui meurt en 1912, qui est à l'origine d'une histoire des hétérodoxes espagnols, parce qu'il a voulu prendre la défense du catholicisme ultra de l'Espagne et qui a un peu inspiré le franquisme, eh bien, curieusement, Menéndez Pelayo luttera pendant toute sa vie pour que l'on dise que le catalan est une des langues espagnoles. Pas simplement une des langues de l'Espagne, mais une des langues espagnoles. Et qu'effectivement, le castillan, à lui seul, n'est pas la langue espagnole.
Tout cela se lit assez bien dans le poème que nous venons d'entendre.
Avec cette nostalgie et le fait effectivement qu'il faut protéger cette langue et que l'individu doit la porter et la célébrer. Alors justement, pendant tout le 19e siècle, donc, on s'est attaché à l'enseigner, on a continué à le faire au début du 20e siècle. Il y a eu un moment où là le catalan a été interdit, c'est pendant la dictature de Primo de Rivera, entre 1923 et 1930. Primo de Rivera, lui, va lancer une politique de nationalisation espagnole et folklorique, diront certains. Et puis, sous la Seconde République, le statut d'autonomie que l'on va donner à la Catalogne permettra à nouveau l'usage du catalan dans les textes officiels.
La Seconde République, elle est entre la dictature de Primo de Rivera et la dictature franquiste.
Voilà, entre 1931 et 1939. Et puis ensuite, Franco interdira à nouveau le catalan de façon officielle. Alors que dans la vie courante, on peut utiliser effectivement le catalan.
Il n'y a plus de presse en catalan,
il n'y a plus de presse en catalan. Ça ne reviendra qu'à la toute fin des années 60, après la loi de libéralisation de la censure de 1966. Et qui va être porteur du catalan? Ça va être l'Église catalane. Et il va y avoir toute une série de revues, notamment autour de l'abbaye de Montserrat, et qui vont favoriser le maintien de cette langue catalane. Et à partir de 1975, dès la mort de Franco, on va réutiliser le catalan comme langue officielle. Ça sera reconnu dans le statut d'autonomie de la Catalogne en 1979. Et la Generalitat, avec Jordi Pujol, développera une politique linguistique que d'aucuns trouveront agressive et que d'autres trouveront au contraire défensive pour faire en sorte que les Catalans parlent le catalan. Et aujourd'hui,
je note d'ailleurs qu'en 1975, 53% des habitants de la Catalogne parlaient catalan et qu'en 1996, Ce chiffre s'était élevé à 75%. Aujourd'hui, je ne sais pas.
Alors aujourd'hui, j'ai les chiffres. 95% des Catalans comprennent le catalan, 78% le parlent, 81% le lisent, mais seulement 62% l'écrivent.
Mais ça peut être un handicap, peut-être, pour certains Catalans de ne pas bien parler le castillan.
C'est ce qui est en train de se produire, effectivement. Et aussi, des grandes entreprises, désormais, n'arrivent plus à envoyer des expatriés à Barcelone parce que, bien souvent, ils n'ont pas appris le catalan et ils se trouvent plongés, tout d'un coup, dans un environnement linguistique qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça peut être un handicap. On le voit aussi sur le plan de l'édition. Barcelone est la grande capitale de l'édition. Édition en catalan ou en castillan. Et 90% de la production est en castillan. Eh bien, la loi de normalisation linguistique que la Généralité a fait approuver dans les années 80 oblige effectivement à des quotas de publication en catalan, oblige aussi par exemple les films à être doublés ou sous-titrés en catalan, et bien des producteurs ne prennent pas le risque financier. Donc il y a un risque quand même dans cette politique linguistique très dynamique, très ambitieuse, quand même, de couper la Catalogne du reste de l'Europe.
Vous voulez dire qu'il peut y avoir des effets pervers d'un nationalisme langagier ?
Oui. Mais la langue est aussi un moyen de revendiquer une projection au-delà des frontières administratives. Car les Baléares parlent catalan, Valence parle catalan, un petit bout de l'Aragon parle catalan. Alors, des linguistes se déchirent pour expliquer que ce n'est pas tout à fait la même langue, mais on retrouve effectivement cette aire méditerranéenne d'influence catalane qui explique pourquoi les Catalans, à juste titre d'ailleurs, ont le sentiment d'être porteurs d'une culture qui a une densité, qui a une existence, qui a une histoire, et qu'il ne faut pas la limiter, je dirais, à une sorte de folklore, même si la Sardane a son charme, même si les montagnes humaines ont leur charme, mais qui renverrait un peu à un idéal de civilisation rurale.
Qu'est-ce que c'est, les montagnes humaines ?
Eh bien, ce sont des pyramides où vous êtes d'abord 6, et puis ensuite 4, 2, et on arrive à empiler 6 ou 7 hommes les uns sur les autres. Les Catalans y voient la traduction de leur solidarité. Ils disent c'est l'image même de la solidarité catalane, car pour que celui qui est au sommet tienne, il faut que la base tienne. Et donc, c'est un travail collectif.
Le nationalisme catalan, c'est affirmé, peut-être exaspéré, à la fin du 19e siècle. Il y a un certain nombre d'auteurs qu'il faut évoquer, qui ont été très importants. Je pense à Victor Balaguer, par exemple, celui qui disait que l'histoire de la Catalogne est aussi l'histoire de la liberté en Espagne. Une sorte de fierté. La liberté, c'est nous.
On est dans le grand combat du libéralisme. Et les Catalans disent, nous avons une tradition, tradition de la négociation politique, tradition de la diplomatie, tradition de la représentation. Et effectivement, Victor Balaguer, qui se situe en 1860, va véritablement défendre cette idée que la Catalogne est le modèle pour une Espagne libérale. Mais c'est un nationalisme qui articule la loyauté à l'égard de l'Espagne et la loyauté à l'égard de la Catalogne. Il estime que les deux sont parfaitement compatibles et que l'esprit catalan doit irriguer l'esprit national espagnol. Peu à peu, une divergence va apparaître après la révolution de 1868 qui met fin au règne d'Isabelle II, qui est une Bourbon. Isabelle de Bourbon est renversée et il va y avoir un intermède républicain où on va tenter une Espagne fédérale, une république fédérale dans laquelle la Catalogne existerait en tant que nation associée. Ça rencontre aussi tout ce mouvement autour de l'idée d'une fédération ibérique. Quelques intellectuels portugais comme Manuel de Oliveira alimentent cette idée-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on constate que dans cette péninsule où les frontières sont les plus stables de l'Europe, le Portugal c'est depuis 1234, il y a une aspiration à une unité possible, mais une crainte de cette domination de Madrid et du centre. Et puis, du coup, ce nationalisme catalan va se trouver nourri des divergences économiques que nous évoquions tout à l'heure. La bourgeoisie catalane est une bourgeoisie industrielle et elle est favorable au protectionnisme. Alors que les Castillans sont des producteurs de blé et eux sont libre-échangistes. Et comme c'est eux qui dominent à Madrid, ils sont très réticents à l'égard d'une augmentation des droits de douane. Et progressivement, les Catalans vont avoir le sentiment que finalement, Madrid gouverne pour ses intérêts et oublie les intérêts de la Catalogne. Et en 1885, la bourgeoisie catalane présente des griefs au roi Alphonse XII pour expliquer que la Catalogne a besoin d'être soutenue depuis Madrid.
Aujourd'hui encore, vous avez l'impression que les divergences économiques peuvent contribuer aux tensions et au mouvement centrifuge qui marque les relations de la Catalogne avec l'ensemble de l'Espagne?
C'est le discours, effectivement, que tiennent les nationalistes catalans, estimant que la Catalogne paye trop pour le reste de l'ensemble espagnol. La Catalogne, c'est environ 200 milliards d'euros de produit intérieur brut, c'est-à-dire 20% du produit intérieur brut espagnol. Simplement, cette Catalogne est rattrapée par Madrid, qui aujourd'hui représente 20% aussi du PIB espagnol, je parle de la région même de Madrid, alors qu'au début des années 60, Madrid représentait à peine 12% du PIB. C'est le résultat de la politique franquiste qui a amené tous les investissements vers Madrid et vers la Castille. Si bien que les Catalans ont maintenant un sentiment d'être marginalisés économiquement. Comme vous l'avez dit, la crise en plus est extrêmement sévère, les ressources manquent, et du coup, le gouvernement catalan dit « nous serions plus à l'aise si nous n'avions pas à contribuer au maintien d'une Espagne qui présente un certain nombre de défauts structurels ». Et c'est une grande fracture nord-sud.
Là, on n'est pas tellement loin de ce que l'on pouvait entendre chez les industriels ou les commerçants catalans à la fin du XIXe siècle.
On est dans le même discours, et on est dans un discours qui est proche de celui qu'on peut entendre aussi en Italie, si on regarde du côté de la Ligue du Nord.
Vous évoquez la Seconde République. Je voudrais vous faire entendre ce discours du colonel Francesc Macià à Barcelone, le 14 avril 1931. Il proclame la République fédérale catalane.
Catalans, interprétant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceta Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant...
Voulez-vous bien nous donner une petite idée de ce qui se dit là, Benoît Pélistrandi?
Nous sommes le 14 avril 1931. Des élections municipales ont eu lieu le 12 avril. Et les Républicains l'ont emporté dans toutes les capitales des provinces en Espagne. Alphonse XIII est contraint à l'abdication et le 14 avril, la République est proclamée à Madrid. À Barcelone, c'est une République catalane qui est proclamée. Il y a là un peu une course de vitesse et Francesc Macià a annoncé la naissance d'une République fédérale espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de forcer la main à ses compères républicains de Madrid. Il y avait eu une opposition de tous les républicains, mais on n'avait pas du tout tranché sur quelle serait la forme de l'État. Eh bien là, il est en train de dire, les Catalans, nous voulons une fédération, c'est-à-dire que nous voulons que la Catalogne soit une république associée à la République fédérale espagnole. Et il a même utilisé aussi l'expression de République fédérale ibérique. Et donc, on peut imaginer qu'il est déjà en train de s'adresser aux Portugais, reprenant ce vieux songe ibériste du XIXe siècle.
Ce qui permettrait d'envisager une indépendance égale à celle dont jouit le Portugal.
Absolument. Alors, Macià réussit son coup, mais très vite, il est obligé de faire machine arrière. Et la Catalogne fait partie de l'ensemble République espagnole. En 1931, discute de la constitution de cette nouvelle République. Et en 1932, le Parlement vote un statut d'autonomie extrêmement large qui rétablit la Generalitat de Catalogne dans ses prérogatives institutionnelles et administratives. Et on a repris effectivement ce vieux terme qui est hérité du XVIe siècle et qui flatte ce nationalisme historique catalan.
C'est aussi le temps, ces années 30, jusqu'au coup d'État, jusqu'à Franco et jusqu'à la victoire des franquistes, le temps où, en Catalogne, comme d'ailleurs dans le reste de l'Espagne, on insiste beaucoup sur la spécificité de l'héritage culturel. C'est là qu'on met particulièrement en valeur l'œuvre architecturale, par exemple, de Gaudi, qui est mort précisément dans ces années-là, juste avant la République.
Juste avant la République, Gaudí est un fervent catholique, mais un fervent catalan. L'œuvre la plus symbolique aujourd'hui pour les Barcelonais, c'est naturellement la construction de la Sagrada Familia, qui est inachevée et qui devrait se terminer en 2026. Le projet avait commencé à la toute fin du 19e siècle. Et Gaudí va porter une part de ce nationalisme catalan, car en 1924, il va être arrêté par la police de Primo de Rivera, car il manifestait devant une église qui était fermée parce que les sermons y avaient été faits en catalan. Et Gaudí, qui est déjà très célèbre à l'époque, eh bien, est arrêté et conduit au poste pendant plusieurs heures avant d'être libéré.
Les touristes savent que Barcelone est profondément marquée par l'œuvre de Gaudí, par son style très original.
C'est un style très original et on le voit effectivement avec le parc Güell qui domine la ville et où on voit ses formes colorées et extraordinaires, enfin pleines à la fois d'excentricité et d'inventivité. Et puis aussi ces très grands immeubles qui sont extraordinaires d'innovation et très originaux. Et ça, c'est une fierté de Barcelone, même si Gaudí n'est pas à lui seul le symbole de Barcelone, car après tout, finalement, ces créations ont été relativement limitées. On en trouve ensuite dans le reste de l'Espagne, mais effectivement, elle porte la marque de ce modernisme catalan qui a été la carte d'identité des Catalans entre 1900 et 1930.
Noucentisme, c'est ce qu'on appelle le noucentisme.
C'est le noucentisme, donc, qui est un mélange entre 20e siècle et modernité. Le terme est inventé par l'intellectuel catalan Eugenio d'Ors, qui, entre 1900 et 1920, est très catalaniste, et puis qui, après, dans les années 40, se ralliera plutôt au régime de Franco.
Il y a aussi l'apparition des peintres catalans qui vont commencer de fleurir dans ces années-là et qui incarnent, à côté de Gaudí et d'autres, en effet, cette culture spécifique de la Catalogne.
Il va y avoir effectivement un milieu culturel catalan extrêmement riche. On peut penser bien sûr à Dalí un peu plus tard. Il y a aussi les musiciens, Albéniz, Granados, qui sont catalans. Mais Albéniz, c'est la suite Iberia. Granados, ce sont des Goyescas, c'est-à-dire que tous ces hommes qui font la richesse culturelle de la Catalogne se pensent en Espagne. Et l'opposition entre Madrid et Barcelone est sans doute un petit peu exagérée par une lecture rétrospective. En réalité, nous sommes dans un mouvement de profonde modernisation où ces hommes partagent un même idéal de transformation de la culture espagnole, de laïcisation de cette culture espagnole, d'européanisation aussi. Et en réalité, il y a un axe Barcelone-Madrid qui sera ensuite incarné par l'idéal culturel de la Seconde République. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le statut d'autonomie de la Catalogne en 1932, voté par les Républicains, ne donne pas à la Catalogne la compétence sur la politique éducative. La Seconde République espagnole, à l'image de la Troisième République française, veut faire de l'éducation une priorité nationale et un élément de nationalisation et de démocratisation du pays.
Démocratisation, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus justement cette unité.
Rupture. Il n'y a plus cette unité parce que, au cœur de la transition démocratique espagnole, cette fois-ci entre 1976 et 1978,
Après Franco,
Adolfo Suárez, chef du gouvernement, qui négociera directement avec Josep Tarradellas, qui représente la généralité en exil, eh bien, pour négocier cette transition, acceptera que les compétences éducatives et linguistiques soient transférées à la Generalitat.
Étape importante. Restons un bref instant du côté de la peinture. Vous avez cité Dalí, il faut aussi citer Miró, Tapies, et bien sûr Picasso, qui parle catalan, mais dont l'itinéraire est intéressant du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous évoquons la Catalogne et les tentations de la dissidence.
Picasso est un Andalou qui est né à Malaga, mais qui effectivement est passé par Barcelone. Vous avez raison d'évoquer aussi Miró, et ensuite Antonio Tapies, dans les années 50 et 60, qui va véritablement incarner une alternative à l'art officiel franquiste et qui permettra ensuite cette formidable réintégration de l'Espagne dans les circuits culturels européens et mondiaux avant même la mort de Franco, d'abord sur un plan clandestin, mais ensuite avec cette reconnaissance formidable de l'Espagne et de sa créativité culturelle.
Il nous revient maintenant, Benoît Pellistrandi, d'évoquer précisément cette période franquiste, la guerre civile, ce que cela a signifié, ce que cela a porté quant à l'évolution de la situation de la Catalogne par rapport à l'ensemble de la péninsule ibérique. Voici un extrait du livre de George Orwell, l'auteur de 1984, qui était en Catalogne au début de la guerre civile et qui le raconte dans un livre qui s'appelle « Hommage à la Catalogne ». Un extrait qui est lu par Jean Negroni dans « Les chemins de la connaissance » du 22 novembre 1983. L'étonnement de Orwell découvrant une ville absolument prolétarisée.
Pour qui arrivait alors directement d'Angleterre, l'aspect saisissant de Barcelone dépassait toute attente. C'était bien la première fois dans ma vie que je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. À peu près tous les immeubles de quelque importance avaient été saisis par les ouvriers et sur tous flottaient des drapeaux rouges ou les drapeaux rouges et noirs des anarchistes. Pas un mur qui ne portât griffonné le marteau et la faucille et les sigles des partis révolutionnaires. Il ne restait de presque toutes les églises que les murs, et les images saintes avaient été brûlées. Ça et là, on voyait des équipes d'ouvriers en train de démolir systématiquement les églises. Tout magasin, tout café portait une inscription vous informant de sa collectivisation, jusqu'aux caisses des cireurs de bottes qui avaient été collectivisées et peintes en rouge et noir. Les garçons de café, les vendeurs vous regardaient bien en face et se comportaient avec vous en égaux. Les tournures de phrases serviles ou même simplement cérémonieuses avaient pour le moment disparu. Personne ne disait plus « Seigneur » ou « Don » ni même « Usted ». Tout le monde se tutoyait, on s'appelait « camarade » et l'on disait « Salud » au lieu de « Buenos Dias ». Sur les Ramblas, large artère centrale de la ville constamment animée par le va-et-vient de flots de gens, les haut-parleurs beuglaient des chants révolutionnaires tout le long du jour et jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et le plus étrange de tout, c'était l'aspect de la foule. À en croire les apparences, dans cette ville, les classes riches n'existaient plus. À l'exception d'un petit nombre de femmes et d'étrangers, on ne voyait pas de gens bien mis. Presque tout le monde portait des vêtements de prolétaires ou une salopette bleue ou quelques variantes de l'uniforme de la milice. Tout cela était étrange et émouvant. Une bonne part m'en demeurait incompréhensible et même, en un sens, ne me plaisait pas, mais il y avait là un état de choses qui m'apparut sur le champ comme valant la peine qu'on se battît pour lui.
Voilà, Orwell, 1936-37, à Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur ce qui reste aujourd'hui du point de vue du nationalisme catalan du temps de la guerre civile?
Beaucoup. Il reste une immense blessure, car la guerre s'est achevée à Barcelone. Et à partir du moment où les troupes franquistes, à l'hiver 1939, commencent la conquête de la Catalogne, il y a cette grande retirada où plus de 500 000 Espagnols vont passer les frontières françaises, vont être accueillis dans des conditions assez lamentables, il faut le dire.
Pas de sujet de fierté pour la France.
Non. Ensuite, une répression féroce. Prenons un seul exemple.
Impression en Espagne par Franco.
Par Franco, le président de la Generalitat de Catalogne qui a pu fuir et est réfugié en France, il s'agit de Luis Companys, il est arrêté ensuite par la Gestapo qui le livre à la police française et Vichy le livre à Franco qui le fait fusiller. Et donc effectivement, il y aura...
Après l'avoir torturé.
Aucune pitié pour tous ceux qui auront porté ce projet d'une Catalogne, non pas indépendante, mais autonome, et qui auront voulu effectivement faire vivre l'identité catalane.
Donc on rentre dans les années noires, dans les années sinistres sous Franco.
Des années très dures. D'abord de grande pauvreté, parce que la guerre a appauvri considérablement le pays, et des années de répression et de vexation. Avec, en plus, une politique effectivement qui n'insiste que sur une partie de l'héritage culturel espagnol et qui veut absolument effacer l'héritage catalan, comme si la Catalogne ne participait pas à l'ensemble espagnol. Et ça, c'est aujourd'hui très sensible parce que c'est une des séquelles longues du franquisme qui conduit certains à ne pas bien comprendre quelle est la place de la Catalogne dans l'ensemble espagnol. Comme le dit de façon très juste Jordi Pujol, à qui on a fait allusion et qui a été le président de la Generalitat de 1980 à 2003, il a dit en 2009 une formule qui me semble rendre très bien compte de ce qu'est ce catalanisme politique. « Je ne veux pas que pour être espagnol, on m'oblige à cesser d'être catalan. Et si cela arrivait, je ne pourrais plus être espagnol. » Eh bien, ce qu'on a essayé effectivement sous Franco, c'est à faire que les Catalans soient espagnols en cessant d'être catalans. Et ça, ça a été effectivement quelque chose de très dur.
On comprend pourquoi, après la mort de Franco et au début de ce qu'on appelle la transition, le passage vers la démocratie, il y a eu une sorte de soupir formidable de soulagement en Catalogne. Et pour en rendre compte, je voudrais vous faire entendre cette chanson qui s'appelait « L'Estaca », le pieu de Luis Llach. Il chante à Barcelone en 1976. Le refrain est le suivant. Le pieu, c'est ce qui contraint la Catalogne à rester arrimée à l'Espagne tout entière, et en particulier naguère à l'Espagne de la dictature franquiste. Le refrain est le suivant. « Si nous tirons tous, le pieu tombera. Cela ne peut durer longtemps. C'est sûr qu'il tombera, tombera, tombera. Bien vermoulu, il doit être déjà. Si tu le tires fort par ici et que je le tire fort par là, c'est sûr, il tombera, 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 et nous pourrons nous libérer. »
Si c'est encore de bon adieu pour toi, mientras el sol esperava i els carros veien passar. Si c'est que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben curtada deu ser ja. Si tu les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu.
On est dans la mémoire sentimentale et auditive de la transition. La mort de Franco, ça a été une chape de plomb qui a disparu. Dès le 28 décembre 1975, c'est un match entre le Real Madrid et le Barça. Le match est diffusé en direct à la télévision. Il a lieu au Camp Nou, le stade du Barça. Et voilà que 1000 drapeaux catalans qui ont été introduits clandestinement surgissent et sont brandis par la foule, et on voit du coup à la télévision nationale les drapeaux catalans, pour la première fois, pour la première fois. Et ensuite, ce concert de Luis Llach en 1976, eh bien c'est cette même Catalogne qui se fait voir, se fait entendre, et dans l'idée effectivement à la fois de revendiquer sa place, mais aussi d'être dans une forme d'unanimité. On n'est pas dans un combat, même si le combat politique a lieu là-dessus, mais effectivement dans l'idée qu'il faut tirer tous ensemble dans la même direction, c'est-à-dire la construction de la liberté. Et ça nous apprend quelque chose dont les Catalans sont très fiers, c'est qu'il existait une société civile prête à cette transition politique.
Sous-jacente, sous l'oppression franquiste.
Sous l'oppression franquiste. Alors, elle existait en Catalogne, elle existait dans le reste de l'Espagne, mais elle a été effectivement très dynamique en Catalogne, et que sans cette société civile, la transition n'aurait pas eu le succès éclatant qu'elle a pu avoir. En 1968, le nouveau président du Barça n'est autre qu'un ancien secrétaire de Francesc Cambó, et Francesc Cambó avait été un des grands leaders nationalistes du début du XXe siècle. Et il aura cette phrase très célèbre, il dit « Le Barça est més que un club, plus qu'un club, c'est un esprit ». Et dans les années 70, sous la houlette du président du club, qui est José Luis Núñez, qui d'ailleurs, curieusement, est né au Pays Basque, et qui n'est pas du tout un catalan d'origine.
Mais adopté.
Adopté, on va avoir véritablement une nationalisation du club, et, comme le dit un de mes collègues de l'Université de Madrid, à qui je rends hommage, Juan Francisco Fuentes, une footballisation du nationalisme catalan.
Alors bon.
Et effectivement, le Barça va porter un peu une sorte de revanche de la Catalogne par rapport au rival éternel Madrid. Mais il n'y a pas que Madrid, il y a aussi les grands clubs du Pays Basque, l'Athletic Club de Bilbao. Et sous la dictature franquiste, le Barça avait l'impression qu'il y avait un axe Bilbao-Madrid pour les empêcher de gagner le championnat, puisqu'entre 1960 et 1974, le Barça ne gagne aucun titre, effectivement. Or, le palmarès du Barça dans les années 70, 80, 90 et 2000 est éclatant, et que le Barça même devient une image de la Catalogne, une marque de la Catalogne. Et c'est même d'ailleurs un club mondialisé aujourd'hui. Alors, ce n'est pas sans poser d'ailleurs quelques difficultés pour les nationalistes, car une Catalogne indépendante supposerait du coup un championnat de première division catalan contre qui jouerait le Barça.
Catastrophe.
Donc il y a malgré tout, on le voit à travers cette question du sport, que les Catalans se pensent quand même dans un ensemble espagnol, même s'ils le font sur le mode de la rivalité, de la compétition et de la concurrence.
Au fond, on peut dire métaphoriquement que cette inquiétude sur les effets quant au football d'une indépendance de la Catalogne est peut-être représentative des défis qui surgiraient s'il se trouvait qu'en 2014, lors de la prochaine consultation populaire, on aille plus loin dans l'indépendance. Outre, évidemment, les inquiétudes de Bruxelles, qui s'en trouveraient très gênées, très préoccupées.
Oui. Car ce serait effectivement un saut dans l'inconnu. Comment organiser cette Catalogne nouvelle? Quelle place pourrait-elle avoir? Et la crainte qu'ont les Catalans, c'est que s'ils deviennent indépendants et que l'Espagne effectivement les isole, à ce moment-là, ils auraient à nouveau échoué. Nous sommes dans, en fait, une longue tradition de ce que les Espagnols appellent des desencuentros, c'est-à-dire des rencontres ratées, des occasions ratées qui scandent l'histoire de la Catalogne. Il y a eu 1640, il y a eu 1714, et il y a eu 1936, sans aucun doute, et peut-être y aura-t-il 2014.
Raté, on ne sait pas. Enfin, je vais vous quitter sur cette béance vertigineuse. Merci d'être venu à ce micro, Benoît Pellistrandi. Vous allez faire paraître, je l'annonce, chacun va être impatient, vous allez faire paraître le 31 octobre, chez Perrin, une histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, évidemment la Catalogne. Il y a une place importante. Vous pourrez trouver bien sûr une bibliographie plus complète sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter sans limite notre émission et la conserver pour l'éternité. Je rappelle que l'émission que vous venez d'écouter a été diffusée une première fois le 5 octobre 2013. La semaine prochaine, nous parlerons de George Sand avec Michel Perrault. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, aussi par Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archivinats Arnaud Plançon. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Luneau.